ces questions-là sur le profane, le sacré, je les aborde peut-être maladroitement, mais en tout cas, j'ai fait quelques petites recherches et vous savez que les premiers chrétiens se les posaient déjà. Par exemple, quand les soldats sont venus se faire baptiser, quand les collecteurs d'impôts sont venus se faire baptiser, ils ont demandé à Jean-Baptiste qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Enfin, on peut pas continuer à faire ce métier, voilà, tout en étant chrétien. Eh ben, Jean-Baptiste leur dira pas d'arrêter leur métier. Il leur dira mais ne demande pas plus. Vous vous souvenez de ces textes? Ne leur demande pas plus que ce qu'ils doivent. Les collecteurs d'impôts s'engraissaient sur ce qu'ils collectaient, hein, et les soldats n'usent pas de ton autorité plus que ce que tu en as le droit, et voilà. Et j'ai puisé dans un livre là, les chrétiens des premiers siècles se posaient aussi ces questions là. Je vais vous lire quelques textes. En l'an 300, là, 300-350 peut-être, un certain Basile de Césarée, qui s'adresse à des jeunes gens, il dit « Je viens vous avertir de ne pas suivre aveuglément des docteurs profanes, de ne pas vous livrer à eux sans réserve, mais de prendre chez eux ce qu'il y a de bon et de savoir ce qu'il faut rejeter. » Alors la question c'est « Comment donc pouvons-nous faire ce choix ?» C'est vrai que à l'époque, c'était beaucoup en rapport avec l'éducation, par exemple l'étude des sciences, des lettres, de la philosophie. Voilà, ils savaient pas trop où mettre les pieds. Je vous lis quelques textes. Au sujet des richesses d'Égypte, alors là c'est un certain Grégoire de Nice, NY2SE, en 350 à peu près aussi, hein. Au sujet des richesses de l'Égypte, il convient de dépasser le sens littéral pour le sens spirituel, d'y voir un ordre de l'écriture donné à ceux qui, grâce à la vertu, ont trouvé la liberté de prendre également les richesses de la culture profane dont les païens tirent profit, par exemple la philosophie morale, la philosophie de la nature, la géométrie, l'astronomie, la dialectique et les autres sciences qui fleurissent hors de l'Église. Il nous est demandé d'enlever aux Égyptiens les richesses pour s'en servir à l'occasion quand il s'agit d'édifier le temple divin de la révélation avec les trésors de la sagesse humaine. Si on définit profane, littéralement, ça veut dire hors du temple. Hors du temple. C'est-à-dire étranger à la religion, opposé au sacré. Donc, forcément, il se posait ces questions. Que faire de ces choses-là? On parlera d'art profane, de chansons profanes, de fêtes profanes, de divertissements profanes, en dehors de la sphère sacrée. Alors aujourd'hui, profane, ça n'existe plus trop, on parlera plutôt de laïque ou de séculaire. On parlera plutôt de... C'est des mots qui nous sont plus familiers. Je vous lis encore l'un ou l'autre texte de cette époque. Voilà. Alors là, c'est quelqu'un que nous connaissons peut-être mieux de nom. En tout cas, il s'agit d'Augustin, hein, Saint Augustin. Toutes nos pensées, toute notre vie, toute notre intelligence doivent être reportées à Dieu, de qui nous tenons tout ce que nous reportons ainsi. Lorsqu'il nous dit de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, il nous laisse libre aucune parcelle de notre vie, aucune place libre où nous puissions jouir d'un autre être que lui. Si quelque chose entre dans notre esprit, et s'il vient solliciter notre amour, qu'on le transporte là où le courant du véritable se précipite tout entier. Voilà. Et on va passer cette fois-ci 700 ans plus tard. Alors attendez, j'ai encore un petit texte, il me semble. Voilà. Or, toujours d'Augustin, hein, il en est de même pour toutes les doctrines païennes, elles contiennent certes des fictions mensongères et superstitieuses et un lourd bagage de travaux superflus que chacun de nous, sortant sous la conduite du Christ, de la société des gentils, doit repousser et éviter avec horreur. Mais elle contient aussi les arts libéraux assez appropriés à l'usage du vrai, certains préceptes moraux fort utiles au sujet du culte du Dieu unique, des vérités qui sont comme de l'or et de l'argent. Et là, 700 ans plus tard, un certain Anselme, dans les années 1050, on voit déjà que toutes ces choses ont un petit peu pris de la ce texte que je vais lire maintenant, on pourrait le lire aujourd'hui, on voit déjà que toutes ces choses ont pris beaucoup de place dans la vie des croyants, et il dit « Faible mortel, dérobe-toi un instant aux occupations d'ici-bas, recherche un abri contre l'orage de tes pensées, dépose le pesant fardeau de tes inquiétudes, suspends ton pénible labeur, un moment du moins occupe-toi de Dieu, un moment repose-toi en lui, entre dans le sanctuaire de ton âme, ferme-le au souvenir importun de la terre, au vain bruit de ce monde, et seul, avec tes réflexions pieuses, cherche Dieu dans le silence du recueillement. Dis, ô mon cœur, dis maintenant à Dieu, je veux contempler ta face, c'est ta face, Seigneur, que je veux contempler. » Voilà, et là on fait un grand bond en arrière, puisqu'on se retrouve en 1900 quelque chose avec Martin Luther King qui dira « La plupart des gens, et des chrétiens en particulier, sont des thermomètres qui enregistrent l'opinion de la majorité, pas des thermostats qui transforment et régulent la température de la société. Les chrétiens sont des suiveurs de culture plutôt que des initiateurs de culture. Manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire refuser les valeurs que Dieu a établies pour le bonheur des hommes, à vouloir imposer les siennes propres, vous serez comme des dieux, dans la Genèse, entraîne une coupure avec Dieu. Et s'il n'y a pas conversion sincère, c'est-à-dire retour total vers le Père, il ne peut y avoir qu'errance de toutes sortes, y compris l'errance philosophique. Il y a une corruption dans la volonté de l'homme. Quand l'âme retourne à sa vraie demeure, il y a toujours de la joie. L'homme s'est égaré dans les régions lointaines du sécularisme, du matérialisme, de la sexualité, de l'injustice. Son voyage a provoqué dans les civilisations occidentales une famine morale et spirituelle. C'est le constat de Martin Luther King à son époque. Alors aujourd'hui, on vit dans un contexte qui a énormément évolué. Les occupations ont évolué. Même le travail a évolué, les mœurs ont bien évolué, enfin pas bien évolué, mais beaucoup évolué. Les valeurs, les standards, l'Église a changé. Et l'école a changé. Je vous lis juste un petit feuillet que vous avez certainement lu aussi cette année, là, sur la bonne semence. Accro aux jeux vidéo, Alex, 14 ans, passait plus de temps devant son écran d'ordinateur qu'à son travail scolaire. Son père excédé lui en faisait le reproche et lui dit un matin « Mais enfin, ne t'arrive-t-il jamais d'écouter la voix de ta conscience ?» Et l'adolescent, sans poser son appareil, lui répond « Oui, papa, c'est sur quel site ?» Voilà. Alors, je vais vous lire un texte aussi d'un sociologue pas contemporain, puisqu'il est décédé, mais en tout cas, il aurait l'âge de mon papa, ouais, aujourd'hui. Et il est arrivé dans l'entrée de l'ère, il est né en 1929, donc l'ère numérique qui démarrait, il a vu cette transformation. Alors, c'est pas du tout, je pense que ces textes ne sont pas du tout à prendre comme allant à l'encontre des nouvelles technologies, mais plutôt de leur mauvais usage, dont il faut dire on est tous quelque part victime, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Voilà ce que disent. Alors c'est un peu lourd, hein, mais retirez ce que vous en retirerez. Il parle, il intitule comme ça, « La dissolution du réel à travers les écrans est une mutation anthropologique. La disparition du réel, en cherchant à faire connaître les tenants et les aboutissants, le réel étant mort, nous ne vivons que de la fausseté, d'une hyper-réalité qui se prend pour réel. Les médias façonnent une illusion globale. Il y a une forme d'imposture métaphysique, l'illusion que l'hyper-réalité se prenne pour réel et s'impose ainsi à nous comme seul mode accessible, comme seul mode accessible. Le monde entier est accessible par le biais des médias qui désormais créent les événements mais ne les représentent plus adéquatement. L'individu confronté à la submersion du virtuel, l'excès de communication, d'information, de messages, de possibilités se retrouve immergé dans le virtuel. C'est lourd, hein? Je vais vous parler dans un autre langage. Alors vous allez me suivre, vous êtes un soir dans la forêt, et il fait une belle nuit étoilée, ça vous est déjà arrivé? Alors les étoiles, elles scintillent, elles brillent, vous les voyez, et d'ailleurs, c'est les luminaires que Dieu a créées, elles nous permettent même de nous diriger, vous êtes d'accord? Maintenant, vous allumez votre frontale super puissante, ça vous est déjà arrivé aussi? Eh bien, les étoiles, elles pâlissent, hein, on les voit même plus. Par contre, ça éclaire super bien, ça focalise là où on tourne les regards, super bien. Et on ne voit plus que cette lumière. Et si on l'éteint d'un coup, est-ce que vous voyez les étoiles? Est-ce que vous voyez où vous êtes? C'est le noir total. Et il faudra du temps pour qu'on arrive de nouveau à discerner où on est, et à pouvoir s'orienter. Vous avez déjà expérimenté ça? Ça illustre peut-être un petit peu ce texte avec d'autres mots. Je vais quand même ouvrir la parole de Dieu, hein. Alors, je vous invite à lire ces textes puissants de l'Écriture. Jean, Évangile de Jean. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Un peu plus loin au verset 9. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accueillie, qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni de la volonté humaine, ni de la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Je vais un petit peu plus loin dans l'évangile de Jean, où il est question du « Celui qui croit en lui n'est pas jugé ». Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il fait, il l'a fait en Dieu. Voilà, encore un texte dans Thessaloniciens. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Alors, cette submersion du virtuel, il faut dire, elle nous aide beaucoup. On va pas mépriser ces choses, mais avouons qu'elle nous vole de l'espace, qu'elle nous vole du temps, et même qu'elle nous influence. Moi, je dois l'avouer. Je vous l'avoue. Et je veux lutter contre ces choses. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'elle nous enlève aussi de la dépendance à Dieu. Vous savez, le paysan, enfin, il y en a qui travaillent, ils dépendent de la météo, hein. Ils dépendent de Dieu, il y en a qui peuvent nous raconter des expériences, je pense, là-dessus. Et aujourd'hui, il y a des gens, ils vont à leur bureau, ils ont même pas vu quel temps il a fait dans la journée, ils sortent, il fait nuit. Et on ne dépend plus, même pour des choses tout à fait élémentaires, on ne dépend plus de Dieu. Alors, dans l'Ecclésiaste, il est dit, ne dis pas que les temps d'avant étaient meilleurs, ce serait pas la sagesse, hein. Parce qu'on a toujours tendance à dire, ah, voilà. Non, c'est pas ça. Cependant, il est dit, l'iniquité grandira et l'amour du plus grand nombre refroidira. Ça, c'est quand même dit. L'iniquité grandira et l'amour du plus grand nombre refroidira. Et les moyens de transmettre cette iniquité sont largement déployés aussi par rapport au siècle dernier. Il est dit aussi que un peu de levain fait lever toute la pâte. Et là, j'avais noté dans Luc 8, verset 14, dans la parabole des semences, ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, il la laisse étouffer par les préoccupations, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Souvent, on n'est pas heureux parce qu'on a un pied, on est un pied dans le monde, un pied dans la relation avec Dieu, et on peut pas être heureux, on peut pas être épanoui. J'entendais sur Radio Phare un chant et ça m'a interpellé. Je me souviens plus exactement toutes les paroles, mais elle disait, l'atmosphère ambiante met mon esprit dans un état, il me semble que c'est d'apesanteur. L'atmosphère ambiante met mon esprit dans un état d'apesanteur. Et c'est vrai que l'atmosphère ambiante est souvent créée par cette submersion du virtuel et tout ce qui s'impose à nous dans nos maisons, vous savez. Même avec la meilleure intention, je vous raconte juste comment la télé est rentrée dans notre maison. Michel et moi, on n'en voulait pas de télé. On a eu notre premier enfant et mon père a débarqué avec une télé. Ah, vous pouvez quand même pas vivre sans télé. Alors bon, on a pris cette télé et avec beaucoup de conscience, on s'est dit, on va pas en faire mauvais usage. On a acheté directement un magnétoscope et toute la série de La Petite Maison dans la Prairie. Et c'est vrai que ça marchait bien, hein. Ça marchait très bien. Hein. Et les enfants grandissent. Et juste pour vous dire, la télé a vieilli, on a déménagé. Et puis alors moi, je vis des fois des logements. Et puis là, on va dans un logement, le monsieur n'avait plus de famille. Et il y avait trois télés, ça devait être inconditionnel, la télé. Alors mes collègues se servent, ils se servent toujours, ils se servent. Et puis il en restait une. Personne la voulait, mais vous savez pourquoi personne la voulait? Un écran d'un mètre vingt sur 70. Alors, je devais l'emmener à la déchetterie. Alors, notre télé marchait plus. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Ben, je l'ai mis dans la kangou, là, hein, je l'ai ramené à la maison. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les enfants, ben, super, super. Bon, allez, vas-y pour la télé à 1m20 par 70, quoi. Mais, vous savez, aujourd'hui, c'est pas la petite maison dans la prairie, hein. Toute la journée, hein, et elle tourne, hein, je peux vous le garantir, hein. Juste pour vous dire que ces choses arrivent chez nous sans qu'on le recherche, sans qu'on le... Je connais des gens qui s'abstiennent complètement de télé, et bravo, hein. Ceci dit, la télé, on y voit des choses super aussi. Je me souviens de Samuel Peter Schmidt à la sortie du Covid, quand il est sorti du coma, il avait vraiment dû faire une rencontre particulière avec Dieu, et la sainteté de Dieu l'avait, il était atterré de dire, quand je pense à ce que je laissais devant mes yeux en regardant des séries, des choses qui intéressent. Vous savez, il y a des séries télévisées, on est pris dedans, on veut voir la suite. Et il était atterré, il avait vraiment dû avoir un face-à-face avec Dieu, de considérer ce qu'il pouvait laisser sous ses yeux. Vous savez, je vous mets au défi, hein. Vous regardez un film, voilà. Et ben, c'est des fois tellement bien ficelé que on attend la vengeance avec impatience ou un meurtre. C'est pas vrai. Et c'est des fois tellement bien ficelé que même un adultère, on va l'accréditer ou l'attendre parce que il mérite ça ou je sais pas. Mais c'est, voyez, je vous mets au défi de faire attention à ce que, des fois, quand vous regardez un film, parce que il faut se rappeler qu'on est chair et esprit. On est chair et esprit. Si tu peux mettre Romains 8, je te l'avais mis, Romains 8. Romains 8, 5, 8. En effet, ceux qui se conforment à la nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Et plus loin, il est dit, de fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'est même pas capable de le faire. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Il est dit après, quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous savez, il y a cet Indien qui, je l'ai peut-être déjà raconté, c'est cet Indien qui dit qu'en nous, on a deux loups. Un qui veut nous détruire et un bon. Et ils sont constamment, un bon qui veut nous construire, ils sont constamment en combat, constamment. Et lequel va gagner? Et la question qui se pose, c'est auquel je donne plus à manger? Auquel je donne le plus à manger? Je vais pousser le bouchon un petit peu avec cette atmosphère ambiante qui nous influence. Je vais faire un détour chez Lot. Vous savez, Lot a choisi la ville prospère et humainement c'était compréhensible, mais il s'est pas du tout soucié des influences là. Lui, il voyait juste la terre fertile et les facilités que lui procurait cette ville. Abraham, lui, il pouvait paraître pour un loser un petit peu, hein, humainement parlant, parce qu'il choisit la terre aride. Enfin, il choisit pas. Il prend ce qui reste, il prend la terre aride, mais la dépendance de Dieu. Et quand Lot parle à ses gendres de la destruction de la ville, du jugement de Dieu, les gendres, dans l'atmosphère ambiante dans laquelle ils vivaient, mais ils ont rigolé. Il semblait plaisanter, c'est ce qui est écrit, hein. Il semblait plaisanter. La femme de Lot, elle, l'atmosphère ambiante, elle l'avait adoptée, elle l'aimait. Et alors il y a eu cette fameuse destruction. Et là, je vais peut-être vous choquer, mais c'est écrit dans la Bible aussi. Quand Lot se retrouve seul avec ses filles, moi, j'ai été choqué de relire ces textes. Hein. Les filles de Lot vont enivrer leur père et le violer pour s'assurer une descendance. Et ça semble leur poser aucun problème moral. Mais dans quelle atmosphère ambiante vivaient ces gens? Est-ce que vous vous rappelez de ce qui se tramait devant la porte de Lot? Vous vous rappelez? Quand les serviteurs étaient venus annoncer la destruction de la ville? Vous imaginez, ce serait un film d'horreur. Là, vous verriez ça à la télé, c'est un film d'horreur. Mais c'est ce qui... dans cette ambiance, ils ont grandi. Et nous, est-ce qu'on réalise vraiment dans quelle atmosphère ambiante on évolue? Quelle atmosphère ambiante nous façonne? Si on ne prend pas garde, bien sûr, mais c'est juste pour nous interpeller, chacun de nous, par rapport à tout ça. On vit dans une atmosphère ambiante où la société sans Dieu centre ses intérêts sur le bien-être, le développement personnel, nourri par des clichés qui nous submergent et même des concepts, des préceptes qui nous pressent. Alors là, tu peux mettre Ésaïe 51, justement puisqu'on a parlé de Lot. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur la carrière d'où vous avez été tiré. Il est dit, portez les regards sur votre ancêtre Abraham et sur Sarah. Il est dit un petit peu plus loin, mon peuple, fais attention à moi. Ma nation, prête-moi l'oreille. Ma justice est proche, il est dit. Levez les yeux vers le ciel, regardez en bas sur la terre. En effet, le ciel se dissipera comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un habit, et ses habitants mourront comme des mouches. En revanche, mon salut durera éternellement et ma justice n'aura pas de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Quelques textes bibliques aussi, quelques conseils de Dieu. 1 Corinthiens 10. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés à travers la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu à la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher c'était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme eux en ont eu. Ne devenons pas idolâtres, comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Alors là, le contexte, c'est pas qu'on n'a pas le droit de s'amuser, hein, mais il est question après d'immoralité sexuelle, 23 000 sont tombés en un seul jour, mais comprenez bien, en tout cas, peut-être les interpellations, pour nous servir d'exemple aujourd'hui, c'est arrivé pour nous servir d'exemple aujourd'hui. Dans Romains, on lira, je vous encourage donc frères et sœurs, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le cirque ce soir. Ensuite, que chacun... Alors, attendez voir. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Hein. Je ne suis pas en train de dire de ne pas aller au cirque. Hein. Et cela... Donc de pas se conformer à l'atmosphère ambiante de ce monde, hein. Et cela d'autant plus est d'autant plus important que vous savez en quel temps nous vivons. Et ça, c'est les apôtres qui écrivaient ça, donc nous d'autant plus aujourd'hui. Cela d'autant plus important que vous savez dans quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller, de nous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc de toutes les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans genre orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour en satisfaire la convoitise. Éphésiens 4, 17, voici donc ce que je dis, ce que j'affirme dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Voilà alors 1 Corinthiens 6. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit. Je crois que ça, c'est vraiment un verset clé sur ce thème. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas, disent certaines traductions, et je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit. Il est dit encore, ça c'est pour vous rappeler de ne pas oublier ce soir, hein. La circoncision, attendez, je me perds là dans mon texte, Corinthiens 6, 19, 20, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez plus à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà juste encore deux textes et j'arrive à la fin. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Cela est rendu saint par la parole de Dieu et par la prière. Il est dit aussi dans il est que Dieu nous donne tout. Alors là, c'est dans le contexte quand Dieu s'adresse aux riches pour dire de faire bon usage de ce que Dieu leur donne. Dieu nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Voilà, mais pas pour qu'on en devienne dépendant ou qu'on en jouisse égoïstement ou d'une manière idolâtre. Et je crois que Dieu être, ah, ça c'est ma réflexion personnelle par rapport à tout ce que j'ai pu partager, que Dieu veut être avec nous dans tout ce que nous vivons. Moi je veux que dans ma vie, dans mes joies, dans mes activités, dans mes loisirs, dans mon travail, dans ma vie de couple, je veux pouvoir, je veux que Dieu ait sa place. Il y a aucune zone d'ombre où il n'a pas sa place. Et je veux pouvoir rendre grâce à Dieu de toute joie dans ce monde. Si je peux pas, c'est qu'il y a un problème. Je pense que si je peux pas rendre grâce à Dieu pour quelque chose, pour une joie dans ce monde, je dois me poser la question. Peut-être ce verset, Colossiens encore, tu l'as, je crois, pour clôturer. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur, non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Alors, je crois qu'on peut s'épanouir dans ce monde. On vit dans une société qui est la nôtre, avec ses occupations, ses loisirs. Je crois sincèrement qu'on peut vivre, s'épanouir. Attention de ne pas nous y perdre aussi. Et vous savez, on avait un pasteur, il s'appelait René Sanchez. Ça m'était resté. Il avait dit, l'homme, pour s'épanouir, il a besoin de deux choses. De se sentir aimé et de se sentir utile. Et Dieu peut combler ces deux choses. Et si nous, on cherche notre bonheur dans une satisfaction égoïste, on pourra jamais être pleinement épanoui. Et vous savez comment Eric Liddell a terminé sa vie? Après sa victoire, il s'est pas fait construire une maison dans le sud pour passer sa retraite. Il est parti missionnaire en Chine. Alors bon, on n'est pas tous appelés à partir missionnaire en Chine, mais ça voulait dire beaucoup à l'époque, hein. Et je crois que dans notre société qui fait le culte de l'ego, c'est important aussi d'ouvrir l'espace de nos tentes, comme il est écrit, hein, pour peut-être chercher à nous épanouir dans de belles œuvres. C'est le Seigneur nous y invite, de belles œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, dans lesquelles on pourra pleinement s'épanouir. Voilà la fin de ma réflexion. Bâtissons non pas avec du chaume ou de la paille, bien qu'Étienne veuille construire une maison en paille, c'est pas l'objet mais avec des matériaux éternels. Avec des matériaux éternels et faisons tout avec conviction. Je crois que l'important, Dieu veut qu'on agisse avec conviction. Avec conviction, c'est très important. Il va même plus loin, il nous demande d'avoir la sensibilité de tenir compte de ceux qui nous entourent pour pas les heurter dans leur conscience. Mais en tout cas, agissons-nous avec conviction et rendons grâce à Dieu pour les bonnes choses qu'il nous donne. Faisons attention où on met les pieds et à ce qui nous submerge. Voilà, je vais vous proposer à quelqu'un de prier pour clore.